Europe 1, en balade avec Enki Bilal, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Nous partons en balade aujourd'hui avec l'un des hommes qui a le plus influencé notre vision du futur. C'est Enki Bilal, Grand Prix de la bande dessinée au Festival d'Angoulême en 1987. Dans Bug, sa dernière saga, ce familier de l'apocalypse imagine le crash informatique total, notre monde soudain privé d'Internet, toutes nos données numériques envolées, plus rien sur nos téléphones portables. Enki Bilal nous a donné rendez-vous sous la Tour Eiffel, là où commence son nouvel album qui paraît chez Casterman.
Europe 1, 11h30, en balade avec Enki Bilal, Frédéric Taddeï.
Bonjour Enki Bilal. Vous avez donné rendez-vous sous la Tour Eiffel, mais en fait, oui. On n'est pas tout à fait sous la Tour Eiffel. Maintenant, sous la Tour Eiffel, c'est une sorte de camp de concentration hein, derrière des murs de verre.
Oui, un mur de Berlin en verre.
Voilà, c'est ça, derrière lequel se pressent les touristes qui vont monter sur la tour. Les bruits qu'on entend, ça fait un peu entre la piscine et le parc d'attractions.
Hein. Ce qui n'est pas radiophonique, c'est des chevaux qui viennent de passer, qui ont laissé quelques traces derrière.
Il y a une police montée.
Il y a une police montée. Donc, c'est les effets des post-attentats.
On ne peut plus aller sous la Tour Eiffel quand on y allait il n'y a encore pas longtemps. Hein.
C'est vrai, faire des photos comme ça à la verticale en dessous. C'est vrai que c'était un monument qui était souvent dans les collimateurs, on évoquait dans les collimateurs de terroristes potentiels. Et moi-même, je m'en suis servi dans mes histoires. Là, j'ai choisi la Tour Eiffel parce que je voulais m'assurer qu'elle était bien droite.
Oui, pourquoi dans
qu'elle ne penche pas.
Dans votre dernier album, la Tour Eiffel et ça se termine sur la Tour Eiffel.
Voilà, exactement. Et il penche à la fin. Mais Hobb va venir régler le problème.
Hobb, c'est le héros. Moi, je suis content de vous voir aujourd'hui parce que, comme tous les Français, on est encore un peu traumatisés par l'incendie de Notre-Dame.
J'ai pu la filmer de pas très loin. J'ai pu monter au 8e étage. J'habite au 7e. Je suis monté au 8e et j'ai filmé. C'est impressionnant. C'était assez terrible.
On se serait cru dans un de ces films de fin du monde, cette esthétique apocalyptique dans laquelle baigne le cinéma américain et les séries américaines aussi depuis la destruction du World Trade Center.
C'était le World Trade Center à l'échelle française, à l'échelle parisienne. Il y avait quelque chose...
Mais cette esthétique, j'ai l'impression que c'est la vôtre depuis toujours. Comme si vous saviez avant nous, avant les Français, avant les Américains, que tout pouvait partir en fumée.
Parce que je suis né dans un pays où rien n'était terminé.
Et où tout est parti un peu en fumée, d'ailleurs.
Tout partait un peu à volo. Non, mais c'est vrai que l'esthétique du... Une forme d'esthétique du désordre qui m'a marqué sans doute là-bas.
Et rien n'était éternel, surtout, parce que ce pays, c'est la Yougoslavie.
Oui, oui.
Je vous ai toujours vu comme quelqu'un d'un peu coincé au fond entre un pays qui n'existe plus et un futur, puisque vous nous avez beaucoup dessiné le futur, et un futur qui n'existe pas ou qui n'existe pas encore.
Qui va exister, mais qui malheureusement existe de plus en plus. Moi, ça m'embête un peu d'avoir ce rôle de vigie, là, comme ça, qui balance des idées, parfois de Cassandre, ouais, malheureusement. Et avec le terrorisme, ça s'est déjà produit. J'espère que le bug n'arrivera pas. Je pense qu'il ne peut pas arriver tel que je décris, c'est-à-dire totalement radical.
Le bug de votre dernière saga, c'est le crash informatique total. Les avions tombent, les ascenseurs se bloquent, les distributeurs...
Donc la Tour Eiffel, on imagine le nombre de personnes bloquées dans les ascenseurs.
Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de données informatiques, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien.
Peut-être que les ascenseurs de la Tour Eiffel ne sont pas entièrement numérisés, je ne sais pas.
Il faudrait savoir.
C'est peut-être intéressant de se renseigner, voilà.
Mais c'est à la fois le rêve d'un certain nombre de gens qui détestent Internet et le monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui. Et puis c'est le cauchemar de la plupart des autres. On y a tous pensé un jour. Qu'est-ce qui a fait, vous, à un moment, que vous avez dit, tiens, et si, au fond, j'imaginais ce que ça va donner, ce crash, ce chaos?
Est-ce que c'est le jour où je suis allé me baigner dans une piscine et que je me suis rendu compte qu'en nageant, que contre ma cuisse, il y avait un battement anormal et que j'ai porté la main à ma cuisse et c'était mon téléphone portable qui était resté dans la poche ici. Et je suis sorti aussitôt, je l'ai posé sur le rebord. Et quand je suis revenu, je l'ai pris la main, je l'ai relâché aussitôt parce qu'il était brûlant. Du coup, je l'ai éloigné, il n'a pas explosé, mais il était mort. Voilà. Non, j'exagère, mais
et
c'est
vous
vrai.
Vous avez vécu
c'est
pendant vrai. Quelques jours,
trois jours.
En n'ayant plus aucune
voilà,
donnée.
Voilà. C'est vrai qu'on est tous rendus un peu addicts. C'est assez désagréable, en fait, hein, d'être à ce point lié à ça. Mais je pense que le plus grave, c'est la mémoire, en fait. La mémoire, c'est un muscle, hein, et on ne le fait plus vraiment travailler. Donc, c'est ça, le problème, c'est qu'on délègue à des fichiers. On met de côté en disant « c'est parfait ».
Oui, mais avant, on le déléguait à des livres en papier.
Oui.
Est-ce que notre addiction au papier, pendant des siècles, n'était pas aussi embêtante de ce point de
non,
vue que notre
que
addiction au numérique depuis moins d'une décennie maintenant?
Oui, mais là, on est addict à quelque chose qui est immatériel.
Le qui livre peut disparaître d'un coup.
Absolument, c'est ça le problème. La mémoire vive remplace la mémoire vivante.
Alors moi, j'ai encore un peu de mémoire, et là, sur le Champ de Mars... Évidemment, je repense à toutes les fêtes organisées sous la Révolution.
Ouais.
La fête de la Fédération, la fête, le culte de l'être suprême. Il y en a eu plein, des fêtes comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu très, très laid. Il y a des barrières métalliques partout. Il y a
des travaux, mais c'est incroyable. Il y a des travaux à Paris, vous avez remarqué.
Oui,
il y a des travaux partout.
Mais là, on voit des bulldozers au milieu du Champ de Mars. On ne peut plus aller sur la pelouse. C'est affreux, c'est terrifiant. Alors, est-ce que c'est d'avoir vu brûler sur Notre-Dame qui nous fait jeter un regard comme ça?
Moi, j'ai un regard assez... J'aime Paris, évidemment. C'est une ville qui est sublime et je l'aime... J'ai beaucoup de peine à la voir crouler sous une forme de dictature, de l'agressivité. Est-ce que les Parisiens sont heureux? Je ne sais pas. Ils n'ont pas l'air. Et je fais partie de ces gens.
Il y a énormément de touristes.
Pourquoi ils viennent alors que Paris est défiguré par des travaux?
Oui.
C'est assez un mystère de savoir que Paris est sans doute la ville la plus touristique du monde. Chaque année, on nous sort ces chiffres, et je les crois, hein. Effectivement, on peut s'en rendre compte, il y a énormément de monde.
Bon, on va se retrouver dans un instant avec Enki Bilal et puis des milliers de touristes aux abords de la Tour Eiffel.
Frédéric Taddeï en balade avec Enki Bilal sur Europe 1.
C'est devant le monument le plus connu de Paris qu'on rejoint Frédéric Taddeï et Enki Bilal en balade jusqu'à midi et demi.
Enki Bilal, vous êtes arrivé en France en 1960, vous étiez un enfant, vous aviez quoi, 9 ans, 8,
oui,
9 ans,
9 ans.
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu la Tour Eiffel?
Et oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette visite, parce qu'en fait c'est le premier monument que mon père nous a présenté. Voilà, il nous a présenté comme ça un certain nombre de cartes postales parisiennes, dont la Tour Eiffel en premier. Ensuite, je pense que ça a été Notre-Dame,
puis le
Louvre. L'Arc de Triomphe. Le Louvre est venu vraiment à la fin.
Ah bon.
Il y a eu Versailles entre-temps, le château de Versailles. Oui, la Tour Eiffel, c'était le... Alors, j'ai été impressionné par la Tour Eiffel et surpris par le fait que la ville m'est apparue basse. Moi, venant de Belgrade, je m'attendais quand même, ma première grande ville occidentale, ou ma première ville autre qu'une ville socialiste yougoslave, ça m'a surpris. Le côté très bas, très, très plat, et évidemment, ça valorisait la Tour Eiffel. Impressionnante, voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué.
Vous aviez un père bosniaque et une mère tchèque,
ouais.
Une mère catholique, un père musulman,
ouais.
D'où peut-être tous ces métissages qu'on voit dans vos albums, que ce soit au niveau des noms ou des traits,
oui,
souvent
ouais.
vos héros sont métissés.
C'est vrai, mais c'est une forme de... Moi, je suis pour le métissage à tous les niveaux et contre tous les communautarismes, donc c'est tout le contraire de la réalité d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vrai que cette union qui fut un échec, mais bon... Elle a produit quand même deux enfants, dont moi. C'est une union qui fut un échec entre deux non-pratiquants, hein, mon père musulman, mais non-pratiquant, mère catholique non-pratiquante. C'est le seul point sur lequel ils se soient entendus, à mon avis. Mais c'est vrai que cette hybridité, elle vient un peu de là, mais elle vient aussi de Belgrade, qui était une ville hybride, qui est une ville...
Mais est-ce qu'ils se sont entendus, j'imagine, aussi sur votre prénom. Votre
oui.
prénom, c'est Enes. Enki n'est qu'un diminutif. Bilal, Enes et Bilal sont un prénom et un nom typique de l'Empire ottoman. Au fond,
oui.
C'est turc.
Enes, c'est assez rare, mais c'est effectivement turc. plutôt d'origine turque et ottomane, effectivement. Et Bilal. Alors Bilal, j'ai appris ça il y a peu de temps, il y a peut-être une quinzaine d'années, parce que je commence à être très très vieux, donc une quinzaine d'années, non, une vingtaine même peut-être, que Bilal était en fait le premier muezzin de Mahomet.
Ah oui,
le premier muezzin, et que c'était un noir. Alors ça m'a beaucoup plu, parce que tout d'un coup, il y avait une hybridité supplémentaire.
Au fond, vous venez d'un pays qui n'existe plus, et avant ça, d'un empire qui n'existe plus non plus.
Voilà, et avec une couleur de peau que je n'espérais pas avoir dans mes gènes, mais je les ai au moins dans mes gènes.
Votre père avait été un partisan aux côtés de Tito, c'était devenu son tailleur. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Pourquoi a-t-il choisi la liberté, comme vous disiez à l'époque?
Il a rêvé d'indépendance. Voilà. Il ne voulait pas entrer au Parti communiste, donc il a refusé des cadeaux en nature de Tito, et dont une maison. Quand même pas rien.
Surtout qu'à l'époque, on habitait des appartements communautaires.
Exactement.
Je pense que c'était votre cas.
C'était le cas. Et ma mère, évidemment, n'a absolument pas compris pourquoi tout d'un coup il refusait cette maison. Et alors, il est parti en éclaireur à Paris. Son but, c'était en fin de compte de réussir en Occident, de fuir le communisme. Et une forme d'orgueil comme ça, une incapacité aussi à s'entendre avec ce métissage justement des peuples. Il y avait beaucoup de problèmes avec les Serbes, donc c'est des choses comme ça qui lui sont propres, personnelles, et qui ont décidé de ce départ. Voilà.
Vous êtes devenu un maître de l'anticipation, vous avez beaucoup influencé notre vision du futur, pas seulement en France d'ailleurs, parce que vous êtes édité dans de nombreux pays. Dessiner le présent, ça vous est arrivé au début de votre carrière à pilote, mais j'ai l'impression que ça vous ennuie.
Ça m'ennuie prodigieusement.
Mais pourquoi? Parce que là, on voit tous ces jeunes gens, tous ces adolescents autour de nous. Bah, tous sont...
Bonjour.
Ils
sont charmants.
Ils peuvent... Oui, mais ils sont marrants à dessiner aussi.
Ben non, c'est pas marrant à dessiner. Un jeune homme charmant d'aujourd'hui. En fait, non, ce qui me déplaît dans le... C'est l'obligation de restituer la réalité. C'est ça qui est contraignant. Il n'y a pas de plaisir à reproduire.
C'est fait de copier.
Ouais.
Votre vision du futur à vous, qui nous a, je le répète, quand même beaucoup contaminé, j'ai l'impression qu'il est post-soviétique, avec une architecture des années 50, des téléphones en bakélite noir. Mais il est aussi post-Tchernobyl. Au fond, il est sectaire, il est mafieux.
Oui.
Parce que aussi bien les sectes que les mafias y ont énormément de pouvoir. Il est inséparable de la guerre. Et puis, vos héros sont toujours des dissidents. Donc là aussi, est-ce que ça dépasse un souvenir de l'Europe aussi, de l'Est?
Aussi, mais bien sûr, il y a ça. C'est ce poids-là, qu'on le veuille ou non, on le porte. Du coup, je pense que les lieux de naissance sont déterminants.
Pourtant, vous n'y êtes resté que 7 ou 8 ans. Et j'ai l'impression que tous vos albums sortent de là encore.
Oui, c'est vrai. Bon, moi, je suis assez mal placé pour le dire, mais je dirais que là... Cette perception du monde, elle est assez immuable, en fin de compte. Le monde n'a pas énormément changé. Les pouvoirs politiques, regardez, le mur tombe, le mur de Berlin tombe. Le capitalisme triomphe, le communisme est vaincu. Et que se passe-t-il? Nous sommes de nouveau dans une guerre froide. Entre qui et qui? Entre les États-Unis et la Russie. C'est un éternel recommencement. Alors peut-être que le... Attention, on va gâcher une photo, désolé.
Oui, c'est difficile, on est toujours dans le champ d'une photo. Voilà,
absolument.
Ici.
Mais non, moi, j'ai pas du tout l'impression de... Alors je traîne cette mémoire visuelle, c'est vrai qu'elle est présente. C'est vrai tout ce que vous dites. On peut voir que mon graphisme...
De même, les visages qui sont souvent fermés, taillés à la serpe, avec des regards, en revanche, très clairs, très intenses, c'est exactement l'image qu'on se faisait des habitants des pays de l'Est à cette époque-là.
C'était ça.
Moi, cette mélancolie.
Oui, forcément. Et moi, je trouve qu'il y a une beauté dans ces visages, parce qu'ils sont chargés de les peaux. Mes personnages transportent leur histoire sur eux, les stigmates. Et puis, très vite aussi, j'ai décidé, parce qu'il y a des choix personnels, techniques aussi, j'ai décidé, par exemple, de rendre la texture d'une peau de la même manière que je rends la texture d'une montagne, d'une forêt, d'un ciel,
ou d'un mur,
ou d'une mer, ou d'une eau, de l'eau. Donc tout ça, cette unité de texture fait qu'on s'y perd un peu, et que peut-être chacun, et alors vous y voyez beaucoup de réminiscences de l'Est, d'autres y voient autre chose, d'autres ça les rend malades, ils ne peuvent pas regarder, ils ferment aussitôt.
On va prendre un taxi.
Et on va aller voir...
Vous aviez envie d'aller au Louvre?
On fait
votre arrivée en France.
Exactement, mais c'est aussi parce que j'ai exposé au Louvre, et ça, je suis assez fier.
Frédéric Taddeï en balade avec Enki Bilal sur Europe 1.
Frédéric Taddeï et Enki Bilal ont choisi de se reposer un petit peu pour la suite de leur balade en prenant un taxi pour aller au Louvre.
Enki Bilal, Bug dans Bug, dont le deuxième tome vient de paraître. Vous imaginez, on l'a dit, le crash numérique total.
Définitif total.
Voilà. Absolue. Donc le chaos, plus rien ne fonctionne. Non, vous ne le montrez pas.
Non, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire.
Mais on voit bien que ce qui vous intéresse, c'est la mémoire, vous me l'avez dit. Et tout à coup, il n'y a plus de mémoire collective. On ne sait même plus l'orthographe. Hein. Il faudra compter, parce que ça se passe en 2040.
Oui, les correcteurs numériques ne fonctionnent plus. Donc,
ça et comme bien. On a oublié d'apprendre l'orthographe.
Et qu'effectivement, il suffit de parler pour que ce soit dicté et enregistré. Voilà.
Mais au fond, cette question de la mémoire, ça vante depuis longtemps. Je me souviens que dans la Tétralogie du Monstre, le premier album, c'était quoi, 98, je crois.
Exact, oui.
C'était votre saga sur la guerre en ex-Yougoslavie. Vous aviez attendu qu'elle se termine pour pouvoir en parler. C'était déjà sur la mémoire. Il y avait déjà un homme qui se retrouvait dépositaire de toute la mémoire du
absolument.
Monde.
Comme dans Bug. Mais alors, ce qui est,
ça vous obsède, hein, ça.
Alors, non, je vais dire une chose quand même très, très importante pour moi, c'est que dans Le Sommeil du Monstre, donc la guerre en ex-Yougoslavie transposée 30 ans plus tard sur la planète, avec l'obscurantisme, etc., etc., le choix du personnage central hypermnésique, c'était la condition de la réalisation de cette histoire. C'était le début. Dès le début, je me suis dit, ce personnage, il faut qu'il ait une mémoire extraordinaire et qu'il aille jusqu'au jour de sa propre naissance, les premières secondes dans... Voilà. Ça, donc, c'est assumé. Lorsque je fais Bug, je ne me rends pas compte que je refais le même truc. Bug, ça vient, l'idée est venue très simplement, peut-être à la suite de cette escapade dans la piscine avec mon portable contre la cuisse. Peut-être que c'est venu de là, mais je ne crois pas. Mais lorsque je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on ferait si tout ça disparaissait d'un coup ?
S'il n'y avait plus d'Internet.
Et je pense à Bug. Voilà, je pense à ce mot qui est le mot qu'on emploie pour dire fin du numérique. Je pense aussitôt, mais en filigrane, il y a le mot anglais, la signification anglaise qui s'inscrit, l'insecte, la bestiole. Et là, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que 3 jours avant, j'avais lu un truc sur Elon Musk et son envie d'aller sur Mars. Je me dis, c'est un type qui revient de Mars et qui a un alien, qui a un bug au moment du bug. Voilà, c'est parti comme ça, c'est 3 secondes. Et à ce moment-là, je n'ai absolument aucune émotion, aucun sentiment que je vais aborder de nouveau
la même
thème
question.
De la mémoire.
Mais si on remonte encore plus loin, on repense aux Phalanges de l'Ordre Noir, à Partie de Chasse, des albums sur des scénarii de Pierre Christin à l'époque.
Donc ça, c'est partagé, bien sûr.
La mémoire aussi avait son importance. Vos héros étaient tous prisonniers de leurs souvenirs. C'était des vieux qui avaient fait la guerre d'Espagne dans l'un et puis la guerre froide dans l'autre.
Mais ça, c'est le XXe siècle. Je pense que c'est le XXe siècle. Et peut-être aussi ce qui fait que vous, en voyant mes dessins, ou ceux qui ont cette culture, sentent les pays de l'Est, sentent cette espèce d'immobilisme, etc. C'est parce que je pense que je viens profondément du XXe siècle. Et je pense être plutôt à l'aise dans le XXIe, là, on est engagé, mais j'ai peur que le déficit de transmission qui caractérise notre époque en ce moment nous fasse perdre le lien avec le XXe siècle. Moi, je trouve que c'était un siècle assez incroyable, assez monstrueux.
On est sur un pont qui nous mène au Trocadéro, là, d'ailleurs. Voilà, il est là, le XXe siècle.
Hein.
C'était
c'est exactement
son aspect
ça.
Totalitaire, absolument. D'ailleurs, voilà. Qui est symbolisé par...
Et c'était les grandes expositions.
Par
c'était
le Palais de Chaillot.
Voilà, absolument. La beauté de Paris, bien sûr. Et donc, c'est un peu voilà, je me sens un peu dépositaire de ce XXe siècle. Et c'est pour ça qu'il est... que la mémoire... est omniprésente sans doute dans mon travail.
Mais je me souviens quand Les Phalanges de l'Ordre Noir est paru, c'était en 79, vous aviez été invité avec Pierre Christin à Apostrophe. Ensuite, quand Partie de Chasse est sorti, 4 ans plus tard, il figurait sur la liste des 20 meilleurs livres de l'année publiés par Livre Hebdo. J'ai l'impression que c'est avec vous deux, que la bande dessinée est devenue mainstream, grand public. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, après tout, c'est aussi bien qu'un prix Goncourt.
Oui, c'est vrai qu'un grand public est public un peu élitiste aussi. Il y avait ce côté très universitaire. Peut-être aussi parce que le Pierre Christin lui-même est universitaire, donc je ne sais pas. Mais il y avait le fait qu'on aborde des sujets, d'abord que la bande dessinée n'abordait jamais, que l'on sorte peut-être de l'âge ou de cette propension de la bande dessinée à être dans la nostalgie, hein, de créer des nostalgies, et qu'on s'adresse à un public plus adulte, et que, effectivement, nos récits géopolitiques, politiques sont reçus aussi à l'étranger. Le parti de chasse a circulé énormément sous le manteau dans les pays de l'Est. Ça, c'est, voilà. Et donc, ça, c'est vrai. On fait partie de ceux qui ont, avec d'autres, hein, il y a Tardi, il y a eu de la grande révolution de la bande dessinée avec Métal Hurlant, L'Écho des Savanes.
Oui, mais c'était déjà plus dérangeant.
Absolument.
Tout ça.
Bien sûr, c'était.
Mais là, c'est... vous étiez rassurant à ce moment-là avec ces bandes dessinées-là, parce que tout à coup, monde dont vous parlez, effectivement, un peu élitiste, bah, au fond, se reconnaissait parfaitement et dans vos livres et dans vos préoccupations, tous les deux.
C'est vrai, mais en même temps, c'était pas. Moi, je trouve que quand, malgré le classicisme des phalanges de l'ordonnance et de partie de chasse, on était quand même dans... On avait un pas en avance, c'était en avance sur l'actualité, c'est pas rien.
Oui, oui, c'est faux.
C'est pas rien. Vrai, donc c'est là-dessus, c'était quand même quelque chose de... Il y avait un côté un peu baroudeur, idéologique, qu'on allait voir devant. Mais en tout cas, c'est vrai, on s'est arrêté avec Pierre aussi à cause de ça, parce qu'on était allé au bout d'une forme de collaboration, d'une forme de perfection, on en était conscient qu'on était arrivé à...
Et puis vous, il vous fallait du fantastique, de l'anticipation.
Voilà, il me fallait ça. Et puis on s'est dit aussi, attention, notre troisième récit, c'est que si on avait fait la suite de Partie de chasse, ça aurait été de la Troisième Guerre mondiale. Et on s'est dit non, on ne peut pas le faire, ça va arriver. Si on le fait, ça arrive. J'exagère à peine. Mais en tout cas, voilà, on s'est dit, on arrête notre collaboration, mais on va faire d'autres livres, d'autres façons de travailler. C'est ce qu'on a fait.
D'ailleurs, vous ne montrerez jamais la guerre. Hein. Vos récits, ensuite, seront toujours post-guerre.
Très juste, oui. Parce que d'une part, la guerre, ce n'est pas très intéressant à montrer.
Moi, je ne crois pas que ce soit seulement ça. C'est que vous avez grandi à Belgrade, où il y avait les ruines de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qu'entretenait Tito. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, à Belgrade,
il y a les ruines. Je suis allongé dans un taxi, là, dans un divan de taxi. Là.
Ouais. À Belgrade, encore aujourd'hui, il y a les ruines entretenues des bombardements de l'OTAN en 1999. Il faut se souvenir que Belgrade a été la seule ville européenne bombardée par des avions après la Seconde Guerre mondiale.
C'est une affaire scandaleuse dont on a peu parlé. Mais voilà, ce monde, en fait, il est... Quand je disais tout à l'heure qu'il est immuable, c'est la vérité, puisque finalement, le bombardement de Belgrade en 99, on va dire que c'est déjà le 21e siècle, hein, c'est une réplique du monde ancien, à savoir, il y a le bon et les méchants, et c'est les Américains qui décident qui sont les bons et qui sont les méchants. Ils sont toujours bons, les Américains. Donc c'est pour ça, sans doute, que tout ça, ça se répète. Mais c'est vrai que Belgrade garde ses blessures de 99 comme Tito avait gardé celles de 40-45.
Et dans lesquelles vous avez grandi, au fond.
Ouais.
Je me demandais ce que le jeune dessinateur de 20 ans que vous étiez quand vous êtes entré à Pilote, après avoir remporté un concours, qu'est-ce qu'il pouvait bien écouter ? Vous deviez écouter du rock, je me suis dit. Du rock américain, normalement.
Non, je ne suis pas du tout anti-américain.
Non,
britannique, vraiment.
En fait,
vraiment,
je me suis dit, vous deviez écouter Cannes. C'est un groupe allemand, c'est les pionniers du krautrock, comme on l'appelait à l'époque, très très intello, et qui ont beaucoup inspiré les musiciens électroniques que vous écoutez.
C'est un John Dream et compagnie, ce qui est venu après, c'est ça ?
Mais en mieux, on va écouter Vitamine C de Cannes, on est en 72, je suis sûr que vous écoutiez ça, même peut-être sans le savoir.
Stepping on a quicksand, a beautiful flaws. Stay at the corner. She
C'était Vitamine C, interprété par Can en 1972, vous vous en souvenez ?
Oui, je connaissais ce morceau, mais j'avais, à ce moment-là, je n'avais pas encore vraiment accès à la musique. Je n'étais pas équipé correctement. Donc il faudra 2 ans, 3 ans pour que je m'équipe sérieusement. Et à partir de ce moment-là, je serai vraiment un grand mélomane, vraiment.
On se retrouve dans un instant devant le musée du Louvre avec Enki Bilal.
Enki Bilal a choisi des monuments phares de la capitale pour sa balade avec Frédéric Taddeï, qui se poursuit devant une célèbre pyramide.
Nous voilà avec Enki Bilal dans la cour carrée du Louvre. Encore des barrières, encore des touristes.
Ah oui, mais là, j'y peux rien.
Encore moi, des polices. Et alors, après la Tour Eiffel, le musée du Louvre...
C'est la dictature du tourisme. Oui, c'est la dictature du tourisme. Mais non, j'ai choisi vraiment des lieux qui sont emblématiques pour moi, mais qui sont des cartes postales
pour
la plupart des gens. Mais j'assume totalement. Et puis, c'est un musée... Alors, c'est quand même le plus grand musée du monde. Hein.
Oui, non, c'est pas rien, hein, je vous l'accorde.
Je crois qu'il y a plus de 70 000 mètres carrés de surface d'exposition. C'est quand même pas rien.
Vous y avez exposé, vous, en 2012.
Alors, oui, absolument. C'est une chance à
consécration.
Oui, mais c'est marrant. Parce que c'est né d'un livre. Non, c'est né d'un livre qui n'était pas de la bande dessinée. C'est une carte blanche que le Louvre m'a donnée pour faire un livre. Et Henri de Lorette, qui était le directeur du Louvre à ce moment-là encore, c'était sa dernière année, il me dit « Je veux qu'on vous expose ». Votre travail, on va l'exposer quelque part. Et il a dit, ça sera dans la salle des 7 cheminées. C'est magnifique qui donne sur la Seine. 7 cheminées, pourquoi ? Parce qu'il fallait au moins ça pour chauffer la pièce très haute, évidemment, de
c'était
plafond.
Le Palais Royal.
Où a dormi un certain temps Louis XIV. Bon, voilà.
Ça a donné un livre qui s'appelle Les fantômes du Louvre. En fait, vous aviez pris des photos de célèbres tableaux.
De tableaux ou de sculptures.
Que vous les aviez reproduits sur toile et vous aviez peint dessus
des fantômes. J'ai fait apparaître des fantômes, des gens qui... Et j'ai bâti leur vie.
Bien l'univers extrêmement gai d'Enki Bilal. Non, bien connu des Français.
Ils avaient eu des vies incroyables parce que ces fantômes étaient liés à l'œuvre. Donc c'était par exemple un des assistants de Léonard de Vinci pour la Joconde. Un jeune homme faible qu'aimait beaucoup. J'aimais beaucoup les jeunes hommes, Léonard de Vinci. Donc il y avait énormément de vérité à tel point que beaucoup de gens ont cru que c'était vrai. Et je vous garantis que j'ai fait une émission sur France Culture. Et l'animateur, qui est un mec très bien, me dit, mais alors, comment vous avez fait quand même pour retrouver la trace de tous ces gens ? Et alors, je lui dis, mais comment pensez-vous que je puisse savoir qu'un tel est né à 12h47 et 12 secondes par un temps de chien à tel endroit ?
Oui, parce que vous racontiez leur vie. Hein.
Ben oui, à fond, et de manière tout à fait excessive par moment. Et c'est, bon, donc, en tout cas, c'était un superbe travail pour moi, parce que c'est pour la première fois, j'allais dans le passé. Et je reconstituais des vies de manière historique.
Et comme par hasard, vos âmes errantes, hommes, femmes, enfants, étaient quand même, je me souviens bien, dans la plupart des cas, morts de mort violente.
Ah ben ça, c'est pour devenir fantôme, pour moi, ça. Ça,
ah
c'est
bon
la règle.
C'est vrai
oui. Ah oui,
non,
je crois.
On ne peut pas devenir fantôme.
Non, je crois pas. Je crois qu'il faut que ce soit mort violente.
Ouais. Ouais.
Donc, c'était ça, le but.
Et puis, vous avez ce teint de craie qu'ont souvent vos personnages. D'où ça vous vient, ça
Oui, absolument. Je trouve que c'est plus sensuel. Une peau laiteuse, je trouve ça extrêmement sensuel.
Ah oui. Par goût personnel. Ouais. Donc, ouais.
C'est comme ça, mais pas forcément, d'ailleurs, pas un goût personnel, forcément esthétique, un goût esthétique.
Cette obsession du bleu qui revient, alors là, notamment dans Bug, où là, carrément, le visage de certains taché de bleu.
À géométrie variable, le bleu, parce que dans Tico Moon, mon deuxième film, Michel Piccoli.
Il
avait une tache bleue. Son frère jumeau aussi, qui était joué par Michel Piccoli aussi. Et ses deux fils jumeaux, joués par Yann Collette, avaient aussi la tache bleue.
Ça, même c'est... quand ils n'ont pas une tache bleue, il y a quelque chose d'un peu bleuté dans vos décors.
Mais là, je reviens sur la tache bleue parce que là, dans Tico Moon, dans ce film, donc, elle est malsaine, malfaisante, c'est une maladie. C'est pas beau, ça fait peur. Dans Bug, c'est une tache bleue qui est ouverte, positive et qui va s'avérer.
Oui, on ne le sait pas encore, qu'elle est positive.
Mais, ouais, mais elle n'est pas malsaine comme elle.
Voilà. Non, bon, elle l'est moins. Elle est moins. Voilà. Et puis il y a les taches rouges aussi qui reviennent régulièrement.
Symbole.
Le sang, ouais. Ou alors le petit foulard rouge des pionniers que vous portiez à Belgrade pour défiler devant Tito.
Ou les croix rouges aussi.
Ouais.
Ah, il y a des croix rouges. C'est des vieux symboles. C'est des vieux symboles. Je parlais du XXe siècle, je suis marqué par le XXe siècle, que je trouve magnifiquement violent et magnifiquement raté et réussi. C'est un hybride. Hein.
vous avez rompu avec les planches.
Oui.
Des dessinateurs de bande dessinée, vous peignez par cases aujourd'hui. Est-ce que vous sentez plus peintre que dessinateur ?
Non, c'est pas une question de, c'est une question de liberté, de fluidité, et de liberté au niveau du montage. Je pense que ça me vient du cinéma. Réellement, je peux recadrer. C'est une écriture libre. Donc c'est ça. Et alors c'est pas une question de peinture ou pas peinture. Peinture, je le fais sur des grands formats lorsque j'ai envie de peindre.
Oui, et vous vendez bien vos toiles d'ailleurs aujourd'hui.
Voilà. Donc ça, c'est.
Est-ce que vous êtes copain avec les autres auteurs de bande dessinée? Est-ce qu'il y a des restaurants, des bars aujourd'hui où se retrouvent les gens de la bande dessinée comme il y en a où se retrouvent les gens du cinéma ou du rap ou de l'électropop?
Il y a eu, mais il n'y a malheureusement plus vraiment.
Il y avait ça du temps des journaux, non? J'imagine, du temps où vous étiez à Pilote.
Oui, absolument.
Mais il y avait le rendez-vous des dessinateurs de Pilote. Mais...
Oui, mais moi je démarrais, donc j'étais assez timide et voilà, j'étais impressionné, donc je restais pas longtemps. Mais non, il y a eu cette période. Alors, il y a eu une période quand même où on se voyait beaucoup dessinateurs pour jouer au football.
Bon. Ah oui,
il y avait on a une équipe de foot pendant 15 ans, 20 ans.
Vous jouiez à quel poste, vous?
Avant-centre. Parce que quand
qui était le goal?
Étienne Robial.
Ah oui, qui a beaucoup alors on a, compté
je,
à
il
ne
va
Plus.
Pas être content que je raconte ça, mais on faisait des matchs parfois en ouverture, en levée de rideau, comme on appelle ça en levée de rideau, du championnat, notamment à la Mousson. On était invités régulièrement à Montpellier. Et c'était un festival de bande dessinée. Et quand ils nous disaient il y a un match de foot, tous les dessinateurs venaient. C'est une manière d'avoir tout le monde. Et donc, Étienne dégageait, à ce moment-là, on jouait nos matchs, il dégageait le ballon de ses cages. Et il le dégageait à la verticale. C'est-à-dire que le ballon partait en l'air et retombait au point de pénalty. Et l'avant-centre adverse n'avait plus qu'à mettre la tête. C'était drôle. Ça, et il y avait une espèce de... Tout le monde s'amassait derrière le but d'Étienne.
C'était là. Il y avait qui d'autre dans cette équipe?
Non, il y avait Margerin, Villemain, Rochette, Julliard, enfin que des...
Jean Tellet,
oui. Il a joué. Et Druyer a joué aussi un moment. Il y a eu Floch même, il y a eu Martin Véron. Tronchet, et puis ensuite il y a eu Dusselier qui est venu, il y a eu des acteurs.
André Dusselier qui jouait bien au foot.
Bien, ouais. Et moi j'étais le buteur, voilà, parce que à l'âge de 9 ans, je l'ai pas
vu. C'était Yougoslave.
Ma Belgrade, l'Étoile Rouge est venue voir ma mère pour demander de m'inscrire.
Dans les années 60, de toute façon, vous avez dû vivre ça en étant en France. Pour les Français, les Yougoslaves étaient soit footballeurs,
ouais,
soit gangsters.
Oui, c'est vrai. Ou basketteurs déjà. C'est
ah oui, c'est...
Mais oui, c'est vrai. Oui, ou alors garde du corps de Alain Delon.
On continue notre balade avec Enki Bilal dans un instant.
Frédéric Taddeï en balade avec Enki Bilal sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï et Enki Bilal qu'on retrouve tout de suite dans le premier arrondissement de Paris.
Toujours avec Enki Bilal, nous quittons la cour carrée du Louvre, on va prendre la rue de Rivoli. Alors il y a beaucoup de barrières.
Ouais,
on aurait
pu
prendre autrefois aller au fond de la cour carrée, passer une porte, etc. Maintenant c'est fini, tout est fermé.
Alors c'est quoi, des gilets jaunes, c'est ça? Non.
Ouais, oui, on peut y penser. Ouais, je me souviens quand vous étiez venu en 2017 pour le premier tome de Bug, vous étiez venu dans le Social Club que j'animais sur Europe 1.
Ouais,
à ce moment-là, je vous avais demandé qu'est-ce qu'on fait de nouveau, qu'est-ce qui est moderne, qui était la grande question que je posais à tout le monde. Et vous m'aviez répondu l'envie et le besoin de révolution.
Ah oui, j'avais répondu ça.
C'est drôle, hein.
Alors oui, au début c'était bien, les gilets jaunes, on s'est dit il se passe quelque chose. Et puis ça s'est vite enlisé. C'est la difficulté de.
C'est dur de faire la révolution que le samedi. Hein. C'est
exactement.
On repart à zéro à chaque fois.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait la révolution en travaillant dans la semaine et on empêche ceux du samedi dimanche de travailler. En tout cas, ceux du samedi.
Oh, c'était pas exactement ça quand
même. Non, j'exagère. Non, j'ai trouvé ça très. C'était un très bel élan. On avait l'impression que tout d'un coup, il y avait une lucidité qui apparaissait. Et on avait effectivement complètement oublié toute cette zone de la société. Hein, c'est vrai que pendant 40 ans, on ne les avait pas vus, on ne les entendait pas.
Le mot lucidité est un mot qui revient très souvent chez vous. On sent que c'est une valeur.
Parce que j'aime bien ce mot. Je trouve qu'il est... C'est la limpidité de la pensée. Donc j'aime bien limpidité aussi.
Vous avez dit un jour que... Le XXe siècle s'était terminé avec la chute du mur de Berlin.
Ouais.
Et avec lui, une certaine façon de faire de la politique.
Ouais.
Quelle façon, exactement? Parce qu'on pourrait penser que c'est sont les totalitarismes qui se sont terminés.
Je pense que je voulais dire simplement l'aspect purement idéologique, donc de l'affrontement comme ça de deux forces.
Les dirigeants de ce temps-là ont été remplacés par des technocrates.
Oui, des financiers aussi. Alors, pas les dirigeants eux-mêmes, mais c'est des financiers qui les mènent un peu à la baguette.
Ce sont les entreprises, on peut le penser aussi.
Oui.
Ce sont les marchés, au fond, qui nous gouvernent.
Donc, c'est une forme de nouvelle dictature qui s'est mise en place. Il a fallu du temps pour le comprendre.
Mais c'est une dictature qui n'a pas de chef. Au contraire de ce que croient souvent les gens, les marchés n'ont pas de chef.
Bien sûr, non.
Il n'y a personne qui décide.
C'est, là aussi, on est dans le virtuel un peu. L'argent, cet argent virtuel, cet argent qui, on va dire, qui gouverne le monde. C'est une évidence, ça. La chute du mur, qu'est-ce qu'elle a produit ? Elle a produit un vainqueur qui a d'abord, au lieu d'être fair-play, a plutôt humilié son vaincu, le communisme, l'URSS par exemple.
La Russie.
Et effectivement, c'est pire que. Les rapports sont presque pires qu'avant.
Alors que pour les Français, sûrement. En tout cas, pour le gouvernement français, on est plus anti-russe aujourd'hui qu'on était à l'époque où l'Union soviétique occupait la moitié de l'Europe.
Ça a commencé avec François Hollande et ça continue comme ça aujourd'hui aussi. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que le capitalisme vainqueur a produit le grand mensonge, c'était tout le monde aura droit à une part du gâteau. Tout le monde sera... C'est globalisant, c'est le libéralisme, c'est des termes qui sont assez rassurants.
En même temps, les turiféraires du capitalisme vous disent qu'effectivement, depuis la chute du mur, 1 milliard de gens sont sortis de la grande pauvreté. Et que ça, c'est un...
Parce que justement, le monde
s'est libéralisé.
Oui, mais c'est toujours ces espèces de statistiques qui sont... qui ont des lectures biaisées, c'est très juste d'une certaine façon, mais quel est le pouvoir d'évolution, d'amélioration de la vie de la majorité de la société mondiale? Moi, j'ai du mal à trouver de l'humanisme là-dedans.
Et en tout cas, ils mangent plus de viande.
Oui, mais on
plus de produits laitiers.
Ah oui, mais alors, qu'est-ce que c'est empoisonné? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on leur fait manger? Donc ça aussi, tout ça, c'est très...
Les Chinois ont des voitures, ils n'ont plus seulement des vélos.
C'est cynique, voilà.
Comme nous.
Ça, c'est cynique. Mais c'est dur de faire de la géopolitique en marchant le long du Louvre.
On passe devant l'oratoire du Louvre. Et là, on ne peut plus regarder un clocher sans penser à Notre-Dame.
Hein. Ouais. Et sans penser à la cloche... au bourdon Macron qui risque de... Non, Emmanuel, pardon, qui risque de tomber.
Oui,
c'est une histoire vraie. Hein.
C'est pas, oui, c'est vrai.
Blague. Ouais, mais...
Les bourdons de Notre-Dame ont des prénoms.
Ont des noms de prénoms. Et l'un s'appelle Emmanuel. Voilà.
Je crois savoir, Enki Bilal, qu'en travaillant, vous écoutez de la musique sacrée.
Ça m'arrive, bien sûr, pas tout le temps, hein, quand même. Non, j'aime beaucoup la musique sacrée. Ouais.
Vous devez aimer Jean-Sébastien Bach. Donc,
j'aime bien,
bien sûr. Eh bien, écoutons, en marchant là... un peu de la passion selon saint Matthieu, commis et d'auteuse, dirigée par Leonard Bernstein.
Thank you.
C'était Comier, d'autres extraits de La Passion selon saint Matthieu par Leonard Bernstein. Vous aimez beaucoup ça ?
J'aime bien, oui. Ouais.
On se retrouve juste après ça.
Comme chaque dimanche, de 11h à 12h30, Frédéric Tadi vous emmène découvrir le Paris d'une personnalité. Et ce 21 avril, c'est Enki Bilal qui nous montre ses endroits préférés.
Nous voilà sur la place du Louvre avec Enki Bilal, habitué des catastrophes, familier de l'apocalypse depuis plus de 35 ans maintenant dans vos récits d'anticipation. Vous nous préparez au pire, au fond. Hein.
Mais non, c'est des fables tout ça, c'est pas des... Non, si je préparais le...
Vous n'y croyez pas du tout, ça m'étonne.
Si, non, je pense qu'on est, on joue avec le feu en permanence, mais c'est ce qui fait le charme de l'humain aussi. Hein. C'est un peu exaspérant, mais on est sur le fil du rasoir en permanence.
La dictature, Big Brother, 1984, ouais. Le roman de George Orwell que vous citez souvent. Aujourd'hui, je me demande si on n'est pas plutôt plus près du meilleur des mondes d'Huxley, c'est-à-dire l'État mondial, le transhumanisme, les systèmes de caste, et puis tout ça avec le consentement de la population. C'était ça le génie d'Huxley.
La Chine, c'est ça, aujourd'hui. Et donc la Chine a gardé un peu de Orwell.
La Chine est plus proche d'Orwell,
mais aujourd'hui, c'est elle qui va mener le monde et qui est la puissance numéro un. Ouais.
Vous ne croyez pas plutôt à l'avenir du consentement? Au fond, la grande idée géniale d'Aldous Huxley en 1932, avec Le Meilleur des Mondes, c'est de dire, au fond, la dictature du futur, elle se fera avec le consentement des populations.
C'est ce que font les Chinois.
Les hommes et les femmes aimeront leur propre servitude.
Voilà, mais c'est exactement ça. La Chine d'aujourd'hui, c'est ça. La Chine
La Chine et pas nous.
Pas encore. On va suivre.
Parce que vous parlez souvent de la dictature du numérique. On pourrait dire que nous.
Mais la dictature du numérique est en avance en Chine et va venir ici. En Chine, ce qu'on a fait tout à l'heure, on a traversé hors des clous.
On a eu des points de moins.
Des points de moins, filmés par des caméras. Et vous auriez voulu voir, je ne sais pas, faire un voyage pour voir votre femme qui est à l'autre bout du pays. Non. L'avion, non, monsieur, vous n'avez pas droit à l'avion.
C'est comme dans la fameuse série Black Mirror.
Non, mais c'est vrai, c'est ça.
Sauf
on
que
en
dans
là.
Black Mirror, ce sont les gens qui vous notent, comme chez nous, alors que les Chinois, c'est l'État qui vous note.
Voilà, mais les Chinois sont fiers d'avoir de bonnes notes.
Enfin, ils n'ont pas le choix, surtout.
Ben oui.
Mais c'est peut-être la différence entre la dictature...
Mais ils n'ont pas le choix, si. Je crois que c'est ça, le truc. Ils ont été préparés par
de longues décennies de Mao. La Chine, bien sûr, elle est basée sur la menace et sur la force.
Oui, mais ils sont en avance sur nous dans le numérique. La 5G, c'est eux, ils y sont déjà.
La dictature du numérique...
Avec des armes anciennes de la dictature d'ex-prolétariat. Mais bon, ça n'existe plus, le prolétariat. Ouais. C'était de bon vieux temps.
Vous avez l'impression d'être libre, vous,
Kylian ? Oui. Ah oui, absolument, comme artiste, oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Mais c'est pas, j'ai pas... Je suis libre aussi parce que je suis dans un engagement artistique et pas dans un engagement militant ou de quoi que ce soit. Je veux dire que... Parce qu'il y a très longtemps que j'ai renoncé au militantisme. Je ne l'ai jamais fait, d'ailleurs, parce que je n'ai jamais réellement cru...
En quoi que ce soit.
Oui, réellement. Voilà. Mais en même temps, je suis fasciné par le monde politique, par la politique, ça m'intéresse énormément.
J'ai remarqué d'ailleurs dans vos albums de bande dessinée, vous avez du mal avec les bulles.
Oui,
vous préférez la voix off.
Oui, j'aime bien, c'est vrai.
C'est la petite bulle blanche qui sortait de la bouche du personnage qui vous gênait parce qu'on ne voyait pas le dessin en dessous.
Mais ça dit, je ne travaille plus comme ça. Comme je travaille case par case, je rajoute les bulles.
Oui.
Mais c'est vrai que je... Alors dans Bug notamment, mais même avant dans d'autres séries, c'est vrai que je me sers des dialogues, donc des phylactères, pour des transitions, pour des petites touches psychologique sur les personnages, des petites choses qu'ils font. Et c'est vrai que le texte off est souvent, même voix intérieure, quand c'est la voix intérieure d'un personnage, c'est ce qui est le ciment du récit. Voilà. C'est peut-être mon côté littéraire. J'ai envie d'écrire plus que je ne le fais, peut-être. Je pense même, d'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour, je me suis surpris à le dire et je le pense toujours, que je préfère écrire que dessiner.
C'est vrai ?
Ouais. Et d'ailleurs, je fais un livre, je prépare un livre sur le concept, c'est passer une nuit au musée Picasso et sortir un livre carte blanche. Non, pas dans la nuit.
Ah bon.
On passe la nuit, c'est fait, hein, j'ai passé la nuit et je commençais à écrire.
Hey, c'est drôle.
Marrant. C'est chez Stock, oui. Ah, oh, mais c'est incroyable. À la radio, ça va être très radiophonique. Je vais embrasser Hélène Delprat.
Bonjour.
Je t'ai envoyé un SMS juste là.
Je l'ai eu.
Bonjour Hélène.
Ça me fait très plaisir. Alors moi, j'ai un bonnet et toi, tu as retrouvé des cheveux. Oui, c'est extraordinaire.
Oui, j'avais vu des photos de vous. Vous aviez la tête rasée. En hommage, disiez-vous, à Jean Genet et à Claude Cahun. Ça,
c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Et Wikipédia n'a rien à voir avec moi. Donc voilà, on peut dire ça. On peut dire aussi n'importe quoi.
Voilà, comme souvent.
Moi, Wikipédia, je me suis appelé Bilalovitch pendant des années. Des
ah
années.
Oui ouais. Et je crois qu'on dit que votre père était
serbe.
Votre mère est slovaque.
Slovaque aussi, oui. Oui, voilà, c'est dramatique. Mais c'est, oui, quand je suis arrivé de Belgrade, on me disait c'est la capitale de la Roumanie. Je dis non, de Yougoslavie. Ah bon, de la Hongrie, d'accord. Très bien. C'est pareil.
Nous sommes devant le fumoir, on prend un verre au fumoir. On se retrouve juste après les infos avec Hélène Delprat et avec Enki Bilal au fumoir.
Frédéric Taddeï en balade avec Enki Bilal sur Europe 1. Europe 1.
Les titres du journal de la mi-journée, c'est avec vous Fabienne Lemoyle, bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. Dans le journal de la mi-journée, nous reviendrons sur la situation au Sri Lanka avec une série d'explosions depuis ce matin qui ont visé plusieurs églises en pleine messe de Pâques et plusieurs hôtels de luxe. On parle au moins de 158 morts. Un couvre-feu de 12 heures vient d'être décrété après cette vague d'attentats qui a frappé l'île et une huitième explosion qui est intervenue il y a à peine une heure. C'est la capitale Colombo qui paye pour l'instant le plus lourd tribut. Un dimanche de Pâques endeuillé donc au Sri Lanka, alors qu'on attend dans les minutes qui viennent la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, le message à la ville et au monde délivré par le pape François. Nous reviendrons largement dans le journal de la mi-journée sur le message pascal du Saint-Père avec mon invité, l'historien des religions Odon Vallée. Nous irons bien sûr à Saint-Eustache où se déroule en ce moment la traditionnelle messe de Pâques, à Paris, en lieu et place de celle qui aurait dû se dérouler à Notre-Dame, avec là aussi il y a quelques minutes les pompiers applaudis par les fidèles. Pas de messe de Pâques en revanche pour Emmanuel Macron, il est arrivé hier soir au Touquet pour un week-end en famille. C'est jeudi qu'il doit faire ses annonces sur la sortie du grand débat. Dans le journal de la mi-journée, vous entendrez d'ailleurs le député européen du Rassemblement national Nicolas Bay, qui n'attend rien de ses annonces de jeudi. Il était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Le journal des sports avec du tennis et la suite de la Fed Cup à Rouen. Et puis la météo avec un ciel de plus en plus contrasté. Attention au vent d'automne qui va souffler fort. Côté température, elle reste très douce sur la moitié nord, entre 22 à 26 degrés, plutôt 18 à 22 sur les côtes de la Manche. Au sud, il faudra compter entre 18 et 22 degrés.
Merci Fabienne. Vous commencez à avoir faim, c'est normal, il est midi. Bon dimanche avec Europe 1.
Europe 1, en balade avec Enki Bilal, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Enki Bilal et l'on se retrouve au fumoir, un bar élégant de la rue de l'Amiral Coligny, juste derrière le Louvre, avec son amie Hélène Delprat. Alors présentez-nous Hélène.
Bah, Hélène, c'est une artiste dont il est difficile de définir les contours. Parce que là, on a par exemple un... Non, elle est extrêmement mince, c'est pas le problème. Hein, c'est pas une question de... Mais c'est... Là, j'en ai la preuve là encore, parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Moi, je sais qu'elle a ce qu'elle fait en peinture, je sais qu'elle a des concepts, y compris des concepts théâtraux. Là, on est dans un livre, photo, on a un mélange de tout, on a des mots. On a des mots, on a des dessins, on a des photos.
Il faut dire que vous êtes devant un livre. Hein.
Voilà, c'est un livre, bien sûr, bien sûr. Alors, ces références, elles sont multiples, elles sont souvent littéraires. Et là, un univers dont toi, tu seul à les clés. Ouais. Mais est-ce que tu veux en donner une partie ou pas?
Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est un peu le principe de l'escargot. C'est-à-dire que je pars d'un point qui va changer de place. Et puis après, il y a des tas de ramifications. Donc c'est pour ça, par exemple, sur cette page, Ed Wood, qui a été considéré comme le plus mauvais metteur en scène réalisateur du monde. Orson Welles,
il est juste à côté d'un des meilleurs.
Oui,
c'est fait
et
exprès,
puis,
c'est
Witch.
Pour l'humilier davantage.
Non, je les adore. Parce que j'adore autant l'horreur que la beauté, le mauvais goût que le bon goût. Je ne me préoccupe pas de ça. Et donc, Witch, les sorcières de Macbeth, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Est-ce qu'il y a quelque chose d'automatique dans ta démarche?
Non, jamais.
Non, je veux dire, c'est dans l'enchaînement des concepts.
Non, ça passe par l'écriture aussi, voilà, beaucoup, des notes que je prends. Et puis, pas d'hiérarchie. C'est-à-dire une chose savante, une chose ordinaire, une chose que j'entends dans le métro, une image que je vois, la radio, très importante, que j'écoute ou que j'entends pas forcément, mais que voilà, le son passe. Et j'aime bien faire des émissions de radio aussi, j'en ai déjà fait. Donc le documentaire m'intéresse. Pour sortir de moi-même et de la peinture qui est chronophage et qui fait qu'on est tout le temps avec soi. Et c'est un peu saoulant, la fréquentation de soi-même.
Il faut faire quelque chose de plat.
C'est plat, mais il y a des déambulations parce qu'elles sont très grandes, les peintures.
Oui. Mais il faut un très grand atelier pour ça.
Pourquoi tu ne les as pas apporté une toile de 10 mètres de long, là?
Parce que, écoute, j'ai horreur d'être avec mes trucs et de les voir. Je les fais, c'est déjà suffisant.
Vous n'aimez pas regarder vos toiles?
Non, pas du tout.
Vous pourriez avoir envie de les corriger?
Alors, les choses qui sont dans mon atelier, qui n'ont pas été emportées, quelquefois, je peux les reprendre 2 ans après. Je me dis, tiens, puis il y a des trucs qui traînent et tout d'un coup, hop, ça se lève et on se dit, tiens, c'est ça que je dois faire. Et on le fait. Et on rate tout. Ouais. Et puis après, on en commence une autre.
Vous corrigez beaucoup, Enki Bilal, vous?
Non, non.
Tout le système, à un moment, dans les années 60, c'était juré la mort de la peinture.
Oui, mais on parle de la mort de la peinture depuis que la peinture existe, donc il ne faut pas s'affoler avec ça. Et bizarrement...
Depuis Lascaux.
Oui, mais bien sûr. Et quand on se promène dans les ateliers des beaux-arts, et même très bizarrement, la peinture est, à mon sens, hyper académique. Enfin, c'est au sens où...
Enki n'a pas beaucoup aimé les beaux-arts non plus.
Peinture à l'huile, tout ça.
Mais là, mais tu peux pas, en tant que juré, tu peux pas parler, t'as un devoir de réserve, non?
Oui, je ne dis rien, là, je peux rien dire. Non, je peux rien dire.
C'est
on
dommage,
est en concours d'entrée, donc je peux rien
c'est
dire.
Dommage, parce que ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était intéressant.
Oui. Non, mais bon, écoute. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est surtout très intéressant de rencontrer des jeunes gens, des gens qui ont 20 ans, c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant de voir les préoccupations, c'est surtout ça, pour ne pas rester dans son coin, à ruminer des certitudes qui deviennent.
Et alors, est-ce que le numérique, c'est un sens que tu dévoiles quoi que ce soit, est-ce que le monde numérique dans lequel il baigne en permanence, contrairement à des vieux comme moi, par exemple, est-ce que ça a une incidence sur la manière...
Ça a fatalement une incidence, par exemple, si tu fais dessiner quelqu'un d'après des livres ou d'après des œuvres, il photographie l'œuvre ou le livre, puis dessine d'après l'iPhone. C'est drôle, c'est une autre façon de voir les choses, mais ni meilleur ni pire, il ne faut pas s'affoler avec ça. Par contre, il faut s'affoler de la déconnexion avec la lecture, ça c'est certain, avec la culture générale, c'est un peu light.
Enki Bilal va faire son chapitre sur la transmission, qui est une de ses grandes obsessions.
Déficit de transmission, oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas, j'ai déjà fait, non? Non, c'est vraiment, je pense qu'on n'a pas, quand on est parent, moi qui ne suis pas parent, on n'a pas le temps de s'occuper de... transmettre à ses enfants, parce que tellement on est occupé à essayer de maîtriser son iPhone.
Ouais.
T'as un iPhone?
Bien sûr.
Oui, voilà. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on a dit la même chose de la télévision avant et de la radio avant?
Non, c'est vision. Bien sûr, mais c'est pas pareil. Non, là on peut.
Et je suis sûr qu'au moment de l'invention de l'imprimerie, des parents se sont inquiétés de ce que les enfants allaient trouver dans les livres.
Tout ça a créé les mêmes angoisses.
Et là, c'est radical. Si on rate son entrée dans l'ère numérique, on est mort.
Mais tu vois, même, je regardais tout à l'heure, un DVD, par exemple, ça n'existe plus, un DVD.
Ah si, j'en ai plein. Mais c'est vrai que ça va disparaître.
Non, mais ça devient obsolète très rapidement. Bon, bref, on raconte des trucs de vieux, là, Enki.
Non, mais ouais, mais la VOD, c'est pas terrible. Il manque, il n'y a pas la pochette, il n'y a pas
l'affiche. Je crois que le vrai problème d'Enki, c'est que c'est un homme de l'atome. Il ne veut pas du tout devenir un homme des bits.
C'est une assez bonne définition, oui.
Ouais. Vous aimez avoir les objets dans la main.
Oui, je ne suis pas retourné au vinyle, hein, par contre. J'aime bien la musique dématérialisée, je trouve ça assez pratique. Et avec un très bon son, avec un très bon matériel, ça marche.
C'est où votre prochaine exposition, Hélène Delprat ?
En ce moment, c'est aux abattoirs de Toulouse. C'est une exposition collective qui s'appelle Picasso et l'exil. Et ensuite, ça sera la FIAC, probablement. Et avant, en Suisse, une exposition collective en Suisse allemande. Voilà.
On va vous laisser, Hélène, et on va continuer notre balade avec Enki, direction la rue de Prague. Un hommage à votre mère, j'imagine, qui était tchèque.
Oui, on peut le dire, oui. Merci de ce rappel.
Frédéric Taddeï, en balade avec Enki Bilal sur Europe 1.
En attendant d'arriver dans le 12e arrondissement, Frédéric Taddeï continue à nous en apprendre plus sur Enki Bilal jusqu'à midi et demi.
Nous voilà en taxi avec Enki Bilal. Vous êtes capable de dessiner de très jolies femmes que j'imagine vous trouvez sublimes et désirables. Moi-même, je les trouve assez sublimes et désirables.
Oui.
Vous n'êtes jamais tombé amoureux d'une d'entre elles ?
Pas vraiment.
D'autant plus que vous pouvez la dessiner, elle vous regarde, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez.
Ce qu'elle lui fasse dire, je t'aime, je te veux.
Oui,
non.
Par exemple.
Ça ne marche pas, franchement pas. Non, sérieusement, je suis dans la narration, mais c'est vrai qu'on vit avec ces personnages, en fait. Hein.
Et vous devez en rencontrer, ça arrive très souvent aux gens, de rencontrer quelqu'un, on se dit, tiens, elle ressemble à un personnage de Bilal.
Oui, ça m'arrive.
Ça a dû vous arriver,
sûr,
à vous aussi.
Bien sûr.
Les pommettes hautes, elles se ressemblent tout un peu, en plus.
Mais ça, c'est une volonté, bien sûr. Et les hommes aussi, hein, c'est
un
choix.
Absolument.
Non, il y a eu un vrai basculement. C'était La Femme Piège, cet album qui est sorti il y a quand même très longtemps, déjà en 1986, qui m'a amené littéralement un nouveau public et un lectorat féminin. Réellement. C'est assez sidérant parce que c'est dès la première séance de dédicace, l'album était sorti, il n'était pas sorti en pré-publication. Mais en tout cas, dès les premières dédicaces, je me suis dit, c'est incroyable, il n'y a que des femmes. Donc ça, c'était assez intéressant. Et tout au long des années 90, j'ai eu effectivement souvent des lectrices qui s'étaient à identifier. C'était assez étrange. Et beaucoup. Il est arrivé que certaines viennent avec des cheveux bleus.
Ce sont les groupies. Bon, tout le monde sait que les groupies ne sont pas sexy. Mais en revanche, celle qui est plus bilalienne que la normale, sans le vouloir.
Ça arrive, mais en même temps, moi, c'est un mélange de plusieurs physiques. Et c'est à un moment donné, ça devient très... Moi, je ne sais pas, je ne cherche pas. Je me suis rarement dit, je vais essayer de prendre ce type de physique pour en faire une héroïne, par exemple, ou un personnage.
Est-ce que toutes les histoires que vous racontez, est-ce que ça vous a rendu paranoïaque ?
Non, alors vraiment pas. Peut-être même le contraire. Ça m'a calmé, ça m'a apaisé.
C'est un exutoire ?
Oui, sans doute. Certainement. Ça m'a apaisé sur plein de choses.
Vous n'êtes pas manichéen dans vos histoires, alors que le monde
je déteste ça.
Devient de plus en plus manichéen. Ouais. Hein.
Oui, on parlait tout à l'heure de nuances. Il n'y a plus de nuances et... Donc quand il n'y a pas de nuance dans la réflexion, dans le débat, dans la discussion, on est face au manichéisme, voilà. Le blanc et le noir, le bon et le méchant.
Ce qui a souvent été, longtemps été un trait de la bande dessinée, quand elle était réservée aux enfants ou aux adolescents, elle pratiquait le manichéisme avec beaucoup de jubilation.
Mais en
devenant adulte, elle est entrée dans la nuance.
Eh ben non, là aujourd'hui on a des adultes qui sont manichéens et qui nous obligent à l'être. Hein. Les médias sont manichéens. Il m'arrive de voir des débats. Ça débat sur les télés en permanence, partout. Et c'est la loi du manichéisme. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut apporter de la nuance, c'est absolument impossible.
Il y a une loi parce que ce sont de faux débats.
Oui, c'est vrai. Ça ne raconte pas grand-chose, on est bien d'accord.
Vous regardez beaucoup la télévision ?
Pas spécialement, mais l'information, ça me... Oui, j'aime bien regarder de temps en temps justement ce genre de débats.
Mais alors, justement, dans Bug... Vous imaginez ce qui se passerait si tout à coup Internet cessait de fonctionner. Vous avez dû y penser longuement avant de raconter cette histoire. Ce serait quoi le pire pour vous ?
Question difficile. Qu'est-ce qui me manquerait le plus de cette... Ça permet une forme d'autonomie et de liberté quand même. Hein. Si on sait bien s'en servir. Hein. Ce qui me manquerait, c'est ça. Ce serait ça, parce que une fois tout ce système numérique disparu, il faudrait de nouveau s'affronter aux autres.
Repartir à zéro.
Et repartir avec les autres. Et c'est ça qui me terroriserait littéralement.
Vous
me retrouver face aux autres.
Vous imaginez justement dans Bug, que, puisque ça se passe en 2040,
ouais,
que les plus jeunes ne savent plus se regarder dans les yeux.
Ouais,
ils ont tellement l'impression de se voir à travers des écrans qu'ils auraient perdu cette habitude. Vous pensez vraiment, là aussi, je vous trouve un peu pessimiste. Au fond, c'est pas parce qu'on s'est mis à téléphoner qu'on n'est plus sorti de chez soi. On s'est même aperçu assez rapidement que c'était ceux qui téléphonaient le plus qui sortaient le plus. Et avec Internet, c'est pareil, non ?
Non, mais c'est un petit peu ça, quand même. Il y a des choses très simples. Dans mes voyages, je voyage beaucoup, en Asie, ailleurs. Là où, il y a 15 ans, on croisait des gens dans des ascenseurs qui vous disaient bonjour, maintenant, plus personne ne vous dit bonjour. Tout le monde a son appareil à la main, est en espèce d'auto-moi. C'est auto-moi-même, auto-moi-je, concentré sur, éventuellement, ses amis qui sont à l'autre bout de je ne sais quoi. Non, il y a quand même des comportements qui sont très étranges. Alors, moi, ça m'arrange, en fait, cette espèce de je suis devenu un solitaire harmonieux, d'une certaine façon.
Une musique que j'imagine vous devriez aimer, parce que ce sera la petite note sombre de l'émission. Vous aimez le classique, vous aimez l'électro, vous devez aimer Vanessa Wagner.
Oui, oui.
Vous le connaissez.
Avec Murkoff, c'est bien.
Exactement.
Aussi. Voilà,
cet album,
bon
Statea, où il marie le classique et l'électro. On va écouter la Gnossienne numéro 3 de Satie.
Ah, c'est superbe.
C'était Gnossienne numéro 3 d'Éric Satie, interprété par la pianiste classique Vanessa Wagner et le musicien électro Murkoff, que vous connaissez.
Je connais, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Alors jouer, moi je ne jouais pas d'instrument, mais on a fait des spectacles à partir de certaines de mes peintures. J'avais fait un montage de peinture sur une thématique, une évolutive, enfin quelque chose d'assez hermétique comme ça visuellement, mais Eric Truffaz, le trompettiste, et Murkoff, le musicien électro, ont composé une trame musicale. Et donc c'était des expériences assez passionnantes. Voilà, moi sur scène avec des musiciens comme ça, c'est... Donc Murkoff, personnage très mystérieux, très, très solitaire, plus que moi encore, et grand talent.
On se retrouve rue de Prague, aux 3 rue de Prague, au restaurant Table avec Enki Bilal.
C'est dans un restaurant du 12e arrondissement où il a ses petites habitudes qu'Enki Bilal a décidé de finir sa balade avec Frédéric Taddeï.
Et voilà, nous avons traversé Paris, on est passé par les quais, on a vu beaucoup de gens massés sur les quais, regardant Notre-Dame. Et nous voilà aux 3 rues de Prague, devant chez Table, le restaurant de Bruno Verjus. Vous teniez nous emmener, ça me fait plaisir, ouais, parce que j'aime beaucoup Bruno Verjus.
Mais oui, mais...
est là, au bar, mais oui, il nous attend. Comment ça va, Bruno ?
Bonjour, je vais très bien.
Salut, Bruno.
Alors, Salut, mon cher Enki. Je ne savais pas que Enki était un habitué de chez Table.
D'habitude, des bonnes choses, des choses saines, des produits que Bruno va chercher
Je crois qu'il vous a arrivé directement,
faut.
Qu'on vous les livre.
Tout converge vers cette table-là. Non, c'est toujours un plaisir de venir ici. Et c'est vrai qu'il y a ce on parle toujours de produits maintenant, mais on sent que c'est l'essence même de tes idées vient autour de ça, de la mer, des choses que tu vas chercher, des herbes. On a passé un moment en Corse l'été dernier. Tu ramassais des trucs dans les chemins, au bord de la route.
Un truc et après, il les vend.
Quoi, il les foutait dans...
Là, il les mange.
Non, c'est... Voilà. Bon, et puis c'est une forme de poésie et je trouve ça bien. Et puis en plus, c'est une étoile maintenant. Alors bon.
Ouais, mais ça, l'étoile, toi, tu t'en fiches.
Il faut que les auditeurs sachent que vous avez été critique gastronomique. Et il y a des critiques gastronomiques qui ont ouvert des restaurants, mais vous êtes le seul, à ma connaissance... Ancien critique gastronomique est devenu un chef étoilé au Michelin.
Oui,
c'est unique. Ça.
C'est en ça probablement que j'ai une forme de curiosité. Et c'est peut-être pas parce que je suis curiosité qu'Enki aime à me collectionner de temps en temps, puisque cet homme aime les choses un peu curieuses. Puis on a en commun quelque chose d'important, c'est le goût du bleu. Mmh. Hein, moi, j'aime l'eau, j'aime la mer, j'aime ce qui vit dans la mer. Et puis Enki, il a le goût du bleu.
Pourtant, on mange rarement.
J'en fais même, des maladies de peau de bleu. Alors, c'est
et
formidable.
Qui, visiblement, sont un peu contagieuses. Je me demande moi-même si je ne commence pas à avoir des taches. Mais c'est vrai que le bleu, c'est intéressant. Parce que, comme tu le disais, c'est la seule couleur, finalement, on n'arrive pas à manger. Et à ce propos, d'ailleurs, et probablement dans une ultime tentative de séduction pour mon cher Enki, j'avais inventé la sardine bleue. Alors, tu sais, parce qu'on parle des poissons bleus, le maquereau, l'anchois. Et alors, j'ai trouvé des pois dont la fleur est très tinctoriale. Et quand tu la laisses dans l'eau assez longtemps, tu obtiens vraiment la couleur d'une encre. Tu sais, ces belles encres d'écriture.
Et alors, je fais
une tempura avec l'eau de l'encre bleue. Et quand je fais ma tempura, je sors un poisson bleu.
C'est formidable, ça. Mais tu ne me l'as pas fait, ça.
Si, je te l'ai fait une fois. Je t'ai fait une sardine bleue.
Mais c'est vrai, je l'avais vu, je l'ai mangé.
Ouais, tu l'as mangé.
Et
en
la
plus.
Lumière était comment ?
Il faut dire que c'est un restaurant un peu particulier. Souvent, les habitués ne savent pas ce qu'ils mangent. Il vous faut confiance.
Ouais, ça, c'est vrai.
Parce que vous ne faites la cuisine qu'à partir des produits que vous avez reçus le matin. Donc, c'est pour ça.
Ici, on fait la cuisine. Alors, c'est un lieu particulier.
C'est ouvert, hein. C'est complètement ouvert.
C'est la radio, on peut raconter. C'est-à-dire on fait à manger pour nos clients, mais nos clients, ils sont juste collés devant la cuisine. Alors, pour eux, c'est formidable parce qu'ils nous observent, mais nous, on les observe aussi. Et moi, j'adore faire à manger pour telle personne. Et donc, on est dans une forme de grande personnalisation et ça permet aussi de donner plein d'amour.
C'est vrai qu'au tout départ, quand vous avez ouvert Table, donc vous étiez ancien critique gastronomique, personne ne voulait travailler avec vous ?
Personne ne voulait travailler avec moi. Ils avaient peut-être raison, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais disons que c'est vrai que pendant pas mal de temps, je me suis retrouvé un peu à travailler seul avec moi-même. Et c'est pas très facile.
Et alors, est-ce que comme dans le cinéma, lorsqu'un critique de cinéma passe à la réalisation, il y a une forme de, comment dire, de solidarité pratiquement de la critique. Où est-ce qu'on t'est tombé dessus ?
Effectivement, tous les critiques, ils ont été extrêmement doux avec moi. En étant même quelquefois dithyrambique alors que j'étais loin de mériter la dithyrambe. En revanche, les chefs m'ont égorgé vivant, y compris ceux que j'avais largement défendus quand j'écrivais sur eux, en essayant, tu vois, justement, de dire d'aller chercher chez eux ce qu'ils avaient de plus intéressant et de beau, sachant que la beauté n'était pas la majorité de leur art, si tu veux. Mais moi, j'essayais d'aller chercher ce qui faisait sens et ce qui m'intéressait. Bah, alors moi, en revanche, ils ont
et
pas
maintenant,
cherché.
Depuis qu'il y a eu une étoile au Michelin, ça
je
va
Je crois
maintenant.
Que c'est pire.
Ah, c'est pire encore.
Oui, parce qu'à un moment, certains m'ont dit « Ah là là, mais si Bruno Vergis, c'est l'étoile, tout le monde peut en avoir une, on ne comprend pas. » Non, sympa. Non, je crois qu'ils n'acceptent pas, parce qu'en fait, à la limite, on comprend pourquoi. C'est un tel travail. C'est vraiment un travail considérable. Et donc, quand on arrive comme ça... Moi, je suis arrivé à l'âge où ils arrêtent. J'ai commencé à faire la cuisine à 54 ans, t'imagines ? Et donc, les mecs ont dit, mais pour qui il se prend ? Enfin, mais, je veux dire, nous, ça fait 40 ans que...
Quand j'ai fait mon premier film, c'est pareil. Le metteur en scène, c'était, mais qu'est-ce qu'il...
Qu'est-ce qu'il vient faire ?
Je veux dire, il a la réussite déjà dans son domaine. Pourquoi il veut faire du cinéma ? Je l'ai entendu, ça. Je joue au ping-pong avec mon chef-op. Il y avait mon producteur qui était à 5 mètres. Et il y a un réalisateur, je ne dirais pas son nom, qui lui dit, mais pourquoi tu produis un film de Bilal, c'est un mec qui a réussi dans son domaine.
Et puis tu sais, on aime pas, en France, on n'aime pas trop que les gens infléchissent un peu ce qu'ils font, on les met dans un truc, puis on dit, mais ils sont
on,
bien.
On vient du pré voisin, et c'est pas, voilà, c'est pas le pré carré.
Mais alors, justement, ce restaurant où il y a eu toujours une ambiance extraordinaire, à la fois parce que tout est ouvert, et puis parce que vous êtes là, Bruno Vergis.
C'est vrai que je suis là.
Voilà, un téléphone qui sonne.
C'est une réservation encore, ça n'arrête pas.
Et depuis que vous avez une étoile au Michelin, est-ce qu'il y a toujours la même ambiance ? Est-ce que la clientèle que ça vous apporte n'a pas le goût du feutré ?
Alors ici, c'est un peu compliqué d'avoir vraiment le goût du feutré, parce que quand on arrive, si on a le goût du feutré, généralement, on a un peu de peine à s'installer. Donc il est arrivé, effectivement, juste après l'étoile. L'étoile est un peu ancienne, hein. Ça fait maintenant, je ne sais plus, on ne compte plus, plusieurs mois, un petit peu plus d'un an, un an et demi. Alors il est arrivé, effectivement, au début, que des clients sont extrêmement mal à l'aise et que moi, je les mette extrêmement à l'aise en leur proposant d'aller dîner dans le quartier où il y avait des tables très confortables avec des ambiances feutrées et qui faisaient ça bien mieux que moi. On évite tous de perdre du temps comme ça en réalité.
Puis vous aviez l'habitude parfois de ne pas ouvrir le restaurant, vous n'avez pas envie de venir, vous pouvez encore le faire ça ?
C'est très très drôle ce que vous me dites, parce que samedi dernier, j'ai fermé le restaurant en pensant à vous, en disant... Mais ils seraient fiers de moi parce que je continue à le faire. Il y avait assez peu de réservations. J'avais beaucoup voyagé dans la semaine. Bon, voilà, j'en avais un peu marre. Il y avait peu de réservations. Donc, je les ai annulées. J'ai fermé le restaurant. Et je me suis dit, ah, Frédéric Taddeï serait fier de moi parce que je n'ai pas quitté la ligne, parce que ça le faisait beaucoup rire à une époque. Quand vous en avez marre, vous fermez. Je dis, bah oui, pourquoi pas. Vous savez, quand on a un restaurant, il faut être à 1000% pour tout donner à ses clients. Ouais, ouais. Et si on le fait en étant en traînant la patte, en étant fatigué et sans l'envie de tout dévorer avec eux, bah, il vaut mieux pas le
Qu'est-ce
faire.
Qu'est-ce que tu leur dis quand pour justifier l'annulation, tu dis quoi ?
Je mens pas, je dis que j'ai fermé le restaurant.
Ouais, ouais, voilà.
On peut mieux leur dire la vérité.
Voilà, comme ça, il n'y a pas, de, pas que j'ai une panne de gaz ou qu'on n'a pas trouvé les clés.
Par exemple, là, je vais vous dire la vérité, l'émission est terminée. Il faut qu'on se quitte.
Ça fait une heure qu'on parle et c'est fini. À table.
Et qu'on se mette à table. Merci. Merci Bilal de nous avoir emmenés en balade avec vous. Merci Bruno Vergis de l'avoir terminé. Avec lui, je remercie évidemment Le Fumoir et Hélène Delprat. Je rappelle que Bug, le livre numéro 2 de la saga signée Enki Bilal, vient de paraître chez Casterman. Et je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h.
À dimanche prochain, Frédéric. Pour patienter, vous pouvez réécouter cette balade hein, et même les précédentes sur europe1.fr. Surtout, restez avec nous. Dans moins de 2 minutes, vous retrouvez Fabienne Lemoile pour le journal de la mi-journée. Et à 15h, n'oubliez pas qu'Isabelle Morizet vous donne rendez-vous avec le romancier et auteur de bande dessinée Jean Tellet pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Joyeuse Pâques avec Europe 1, les midi 28.